Bien, chers amis, je vous propose que nous commencions notre soirée. Vous aviez été quelques-uns à souhaiter une soirée consacrée au thème de la fin de vie pour deux raisons majeures. Tout d'abord, les actualités qui en permanence nous présentent des cas qui nous semblent insolubles, où les questions religieuses ne sont pas tout à fait absentes. Et puis, en fait, parce que nous sommes toutes et tous confrontés d'une manière ou d'une autre à la question de la fin de vie, pour nos proches, pour nous-mêmes, et que c'est une grande inconnue, en fait, une grande énigme, à la fois de savoir ce qui est le mieux pour la personne qui est à nos côtés, et puis pour nous-mêmes, ce que nous pourrions souhaiter, espérer, envisager. Et donc, je suis très heureux de pouvoir accueillir ce soir Didier Sicard, qui a d'abord une expérience de praticien hospitalier et qui, ensuite, au sein du comité d'éthique, a eu l'occasion de pouvoir penser cette question. Et puis, tu as été chargé aussi de ce rapport sur la fin de vie par le président de la République, ce qui a été l'occasion, notamment, je crois, d'entendre des récits. Et que ça a été une grande partie de l'élaboration de ce rapport, c'est de pouvoir articuler la pensée sur des récits, sur des situations concrètes, et pas simplement de réfléchir en théorie, mais vraiment d'articuler le récit des patients, des familles et des praticiens. Voilà, et donc nous allons commencer par profiter d'un premier exposé qui permet comme cela de poser un peu les perspectives, et puis ensuite un dialogue s'engage, et c'est cela qui constituera l'essentiel par rapport à vos réflexions personnelles, par rapport aussi à des situations que vous avez pu connaître, et avec les éléments que tu vas nous offrir maintenant. Merci beaucoup déjà.
Merci de ton invitation. On pourrait aborder cette question de 1000 points de vue différents. Alors, il faut bien en choisir un. Je vous propose une trentaine de minutes. D'abord, une dizaine de minutes sur l'aspect, non pas historique, mais l'aspect anthropologique, simplement, de notre rapport à la mort. Et puis ensuite, ce que la loi nous prépare, et par conséquent, les conséquences que cela peut avoir pour chacun d'entre nous. Il y a d'abord un premier paradoxe, c'est que les médecins ne savent pas plus ce qu'est la mort que les non-médecins. Et que je saurais ce qu'est la mort au moment de mourir. Et que ce n'est pas parce qu'on a vu mourir des milliers et des milliers de gens. Je me souviens que le président de la République, François Mitterrand, m'avait invité un jour, il était passionné par la mort, et me disant au moment du sida, « Mais vous qui connaissez la mort, je lui dis, Monsieur le Président, je ne connais rien à la mort. » Et donc, je crois que je ne suis non seulement pas un maître à penser, mais je ne suis pas un savant de la mort, je ne suis pas un expert de la mort. Simplement, je suis contraint par les missions qu'on me donne à avoir quelques réflexions. Et parmi ces réflexions, je suis frappé, durant les événements tragiques que nous avons vécus, comment les jeunes n'abordent la mort que par la mort des jeunes. Ils la voient par la mort des parents, des grands-parents, mais ça fait partie, au fond, d'une sorte de culture où la mort n'a plus la place qu'elle avait autrefois. Et en revanche, quand dans un groupe d'immeubles, quand il y a des attentats épouvantables qui sont passés, et que les jeunes découvrent la mort comme une réalité qui passe à côté, exactement comme j'avais vu dans les années 85-90, les jeunes étudiants en médecine, totalement indifférents à la mort habituellement, comme si d'ailleurs ils appartenaient à une humanité qui avait échappé à la mort, étaient complètement bouleversés par le sida qui tuait des adolescents ou des jeunes adultes qui avaient leur âge. Et alors à ce moment-là, ils découvraient la mort. Et on avait beaucoup de peine à ce qu'ils se distancent. Ils étaient, au fond, ils découvraient simultanément leur métier et que la mort était près d'eux. Et quand le sida ne tue plus, et que la mort devient tout de même des jeunes une possibilité, mais rare, alors que là, elle était une hécatombe permanente, les jeunes médecins ont tendance à refouler, comme la société, au même titre que la société, la mort, un peu dans les possibilités qu'il ne faut pas trop aborder, parce qu'il ne faut pas que la vie, dans sa diversité, dans son énergie, il ne faut pas que les vivants soient embêtés par les mourants. Il ne faut pas que les mourants viennent demander leur dû à une société hédoniste qui, sinon ayant perdu toute transcendance, mais a abandonné tout rituel, que ce serait absurde s'il y avait un catafalque ou des chevaux qui tiraient un cercueil dans la rue. Les gens penseraient que ce serait une scène de cinéma du 19e siècle tournée. Et ça n'aurait absolument aucun sens. C'est très paradoxal, c'est que c'est une situation qui est très occidentale, parce que si vous allez en Asie, l'Asie traditionnelle, pas l'Asie de Shanghai actuelle, qui est en train de se coller au modèle occidental, mais si vous allez dans les pays du Moyen-Orient, vous allez en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, la mort est un moment de rassemblement des vivants autour du mourant et autour de celui qui est mort, comme si la chaîne qui nous reliait vie et mort devait être en permanence marquée, et qu'il serait inconcevable de laisser quelqu'un qui va mourir seul, comme il serait inconcevable qu'on le conduise au bûcher pour l'incinérer, la crémation, ou bien qu'on l'enterre, quelle que soit la situation. On peut dire que sur les 7 milliards d'individus, il y en a encore 3 à 4 milliards qui considèrent que celui qui est mort est le ciment des vivants. Et que pour nous, celui qui va mourir et celui qui est mort est plutôt celui dont il faut se débarrasser. Se débarrasser est un mot trop fort, mais dont il faut tout de même que ça ne dure pas. Et le concept d'agonie est un concept qui est devenu insupportable pour notre société. Comme si l'impatience de notre monde, l'impatience de notre temps présent, notre connexion à tout et à rien, finissait par nous empêcher de penser, et que celui qui nous rappelle à notre propre mort peut-être doit être conjuré. Ce qui est très frappant, c'est que quand, dans les quartiers un peu quelquefois difficiles, un jeune meurt, eh bien, à ce moment-là, l'ensemble des jeunes du quartier défilent, font une marche blanche, comme s'il y avait une sorte de retour plus ou moins exprimé, plus ou moins conscient, à des rituels traditionnels, archaïques. Ce qui ne serait jamais le cas quand c'est un adulte de 30, 40, 50, 60, 70 ans où le rituel a disparu. Mais le rituel des jeunes confrontés à un adolescent tué dans une rixe par la police ou, je ne sais pas, par telle ou telle situation, alors à ce moment-là, il y a des marches blanches. Et je trouve que la marche blanche me paraît toujours très symptomatique de notre refoulé, et qui ne s'exprime que dans circonstances particulières. Alors, avant de passer à la situation légale actuelle, qui est peut-être le sujet central, vous dire un petit peu, au fond, mon étonnement de la relation de la mort à la société via la médecine. Jusque dans les années 60, la mort à l'hôpital faisait l'objet d'un rituel, et elle était extrêmement fréquente, mais il y avait un accompagnement, et la mort faisait partie de la culture hospitalière. Elle n'était pas forcément très généreuse, mais elle faisait partie de la culture hospitalière. À partir du moment où la médecine a commencé à progresser, elle était 30 glorieuses aussi de la médecine, à trouver des tas de traitements qui prolongent la vie, la mort a fini par être comme dans l'espace urbain, je ne parle pas des campagnes, l'espace urbain, c'est-à-dire de disparaître de l'hôpital. Elle disparaît dans sa représentation, dans son apparence. Et entre les années, je dirais, 60, 75, 80, les progrès thérapeutiques en matière psychiatrique, en particulier l'argactyle, le début des traitements antalgiques, a conduit la médecine, dans une grande indifférence sociale, à s'autoriser à mettre fin à des vies qu'elle considérait comme vaines, que ce soit le grand âge, que ce soit le cancer, que ce soit la maladie respiratoire. Et il était fréquent qu'un interne s'autorise de son propre chef à injecter ce qu'on appelait le cocktail lytique qui associait le Phénergan, le Dolezal et l'Argactyle dans une indifférence absolument générale. Cette indifférence a abouti à ce que, et c'était très étrange, c'est que la société était très silencieuse, pas de reproches à la médecine, parce que, au fond, la mort était ce que la médecine pouvait faire de mieux, mais c'était, au fond, un petit peu comme toute institution, lorsqu'elle est complètement enfermée, n'a pas de capacité d'être entendue. Et puis, dans les années 85, à peu près, très surprenant, la réflexion éthique venue des États-Unis a fait que la médecine, brutalement, mais vraiment brutalement, en quelques années, s'est ressaisie. Et elle a considéré que mettre fin à la vie comme ça de son propre chef sans participation volontaire du malade ou avec une volonté interprétée, que cette situation devait être arrêté. Et j'aurais assisté dans ma vie à l'interruption, pas totale, mais à l'interruption quasi totale, des euthanasies dites clandestines, c'est-à-dire des pratiques médicales mettant fin à la vie dans la plus totale clandestinité. Et alors, ma surprise est de voir qu'à ce moment-là émerge dans l'espace public, au bruit du tambour, une exigence portée par telle ou telle association demandant l'euthanasie comme un droit de tout être humain de mettre fin à sa vie comme une liberté, une ultime liberté, au moment même où la médecine ne la donnait plus. Comme si on était à front renversé, comme si on était dans une situation où la médecine, consciente d'elle-même, renonçait à son pouvoir, elle ne renonçait pas à son acharnement thérapeutique, c'est un autre problème, mais elle renonçait à son pouvoir absolu de tuer, et que la société redemandait alors, au fond, à ce que la médecine, qui nécessairement avait substitué à l'euthanasie clandestine l'acharnement thérapeutique, grâce au progrès en cancérologie, au progrès de la réanimation, la société dit, mais ça suffit, arrêtez de c'est que ces agonies, ces êtres qui souffrent pendant des mois et des mois, cette échéance humaine et qui vont demander, qui vont exiger à ce moment-là l'euthanasie. Et donc, les lois françaises, je passe dans les 10 dernières minutes à peu près, les lois françaises ont essayé de mettre de l'ordre et la loi de 2005, après la loi de 2002, est, je pense, une grande loi, même si elle est brocardée, considérée comme une loi critiquée comme une loi fantoche, une loi pour les médecins, mais je pense qu'on a oublié que c'est une des lois les plus admirées dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans l'image de la France, c'est les lois qui sont respectées dans le monde, et non pas les lois françaises pour elles-mêmes, les lois qui ont un caractère universel. Et la loi de 2005, elle a dit trois choses. Elle a dit d'abord que l'acharnement thérapeutique devait être combattu. Elle a dit que Le traitement de la douleur était prioritaire, même si ce traitement de la douleur abrégeait la vie, c'est ce qu'on pouvait appeler le double effet. Et enfin, elle disait que chaque être humain avait le droit d'exprimer ses directives pour la médecine si par hasard il était en état d'inconscience. Ça paraît maintenant très simple. Il y a 10 ans, on se dit « oui, mais ils ont dit des choses évidentes ». Ce qui est toujours évident, c'est comme la loi sur l'avortement, la loi Veil, elle est évidente pour tout le monde en 2015. Et vous vous souvenez des débats parlementaires et les insultes qu'a subies Simone Veil d'une société conservatrice qui considérait que c'était absolument scandaleux de permettre à une femme d'avorter et que cette loi 35 ans après, a une capacité étonnante de rassembler, d'apparaître comme une évidence. Et que on n'a pas été le premier pays. Je reviens de Tunisie où j'étais la semaine dernière, et les Tunisiens avaient pour coquetterie de me dire que Bourguiba avait autorisé l'avortement chez les femmes dès les années 60. Donc nous n'étions pas tellement en avance. Toujours est-il que les lois, il faut les voir au moment où elles paraissent et non pas les regarder avec une certaine condescendance 10 ans après. Et elle avait pour inconvénient tout de même cette loi 3 choses. La première est de dire que l'acharnement thérapeutique est interdit. Or, et ça c'est une spécificité de notre pays, il n'y a pas de plainte pour acharnement thérapeutique. La loi l'interdit, mais je n'ai jamais vu, jamais, un prétoire où une famille dit « je dépose plainte pour acharnement thérapeutique ». Et quand une loi fait qu'il n'y a pas d'application comportant une dimension de protestation et éventuellement d'indemnisation, eh bien, cette interdiction est vaine. Et j'intervenais à l'école de la magistrature, c'était, je crois, mercredi dernier, et je leur disais, effectivement, c'est quand même étrange qu'une loi interdise quelque chose qui ne fasse jamais l'objet d'une discussion en prétoire. Et je leur proposais, avec eux, un jour de faire un colloque sur l'acharnement thérapeutique pour que cela apparaisse en pleine lumière. Deuxième inconvénient, c'est que ce que la loi appelle le double effet, c'est-à-dire à la Saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire je donne un traitement contre la douleur, et puis en fonction du soulagement, et effectivement peut-être que mon soulagement abrégera la vie, mais c'est un effet secondaire, ce n'est pas un effet volontaire. Eh bien, j'ai vu dans ma vie le double effet interprété par les médecins de façon extraordinairement hétérogène. Certains médecins extrêmement prudents sur le traitement de la douleur, ne voulant pas prendre de risque d'entraîner un abrégement de la vie. D'autres médecins appliquant la loi en disant « je soulage » et puis si par hasard le soulagement s'accompagne de l'abrégement de la vie, j'aurais fait mon devoir. Et puis certains disaient « la douleur n'est pas forcément présente en fin de vie. De toute façon, on donne un traitement, d'emblée, donnons un traitement qui soit de nature à abréger la vie. » Donc, on voit très bien que l'interprétation du double effet, non pas par la malade, mais par la médecine, prête à caution. Et enfin, la recommandation des directives anticipées a abouti à ce que moins de 2% des Français les avaient remplies. Alors, pour terminer, la loi 2016, parce qu'à cause d'événements tragiques, elle a été reportée, et on assiste malheureusement, c'est dans notre pays, moi c'est quelque chose qui m'attriste, c'est-à-dire au départ une hauteur de pensée, et à l'arrivée une pensée triviale, une pensée d'affrontement politique tragiquement ridicule. L'Assemblée nationale a fait un travail en profondeur, la société civile a fait un travail en profondeur, depuis 3 ans, des colloques, et puis au dernier moment, le Sénat, qui se réveille, qui n'a pas travaillé, et qui au dernier moment méprise le travail collectif et dit « mais non, il faut repartir à zéro, tout ça est scandaleux, la vie doit être sacrée », et qui retient un discours, je dirais, plus proche du Vatican que d'une société politique mature. Toujours est-il que, j'espère, on est le 7 décembre, j'espère que, au plus tard, le 30 janvier, le Sénat va être mis de côté dans un discours caricatural, dans son conservatisme, incapable de bouger, et qui va, cette loi va avoir trois, pas des avancées, parce que je ne sais pas très bien ce que sont les avancées dans ce domaine, mais trois conséquences. La première, on ne revient pas sur l'acharnement thérapeutique, obstination déraisonnable, puisqu'il n'y a pas de critères. Donc on en parle, mais ce n'est pas très important. En revanche, on dit que la décision est importante d'écouter la personne et que ce n'est pas au médecin de prendre la décision, mais à la personne pas forcément de demander, mais d'être écouté. C'est pas forcément les paroles, mais d'être entendu, d'être, non pas que ce soit une décision médicale, mais une décision qui importe à la personne elle-même. Et que la personne elle-même puisse avoir accès aux soins palliatifs si elle le demande, mais si elle ne le demande pas, que ce ne soit pas imposé, parce que les soins palliatifs, c'est un petit aparté de quelques secondes, m'ont toujours paru étrangement binaires en France, comme s'il y avait le soin curatif, on essaye les traitements jusqu'au bout, et puis au moment où on dit qu'il n'y a plus rien à faire, hop, soins palliatifs. Même si les soins palliatifs sont remarquables sur le plan de l'écoute et de la parole, c'est extraordinairement angoissant de se retrouver le lundi en curatif et le mardi en soins palliatifs, comme s'il fallait désormais avoir à mourir pour que sa parole soit entendue. Cette petite discussion mise à part, je pense que la notion de double effet qui disparaît, la notion du malade qui dit « je ne souffre pas, mais j'en ai assez », la notion du malade qui dit « je souffre, mais enfin, j'ai pas envie que le traitement m'assomme, j'ai envie de rester conscient », au fond, que la parole du malade soit prioritaire. Alors, vous allez me dire, une loi qui dit que la parole du citoyen et du malade soit prioritaire, que je rêve un peu et que je suis dans un monde irénique ou idyllique. Mais je crois que cette vision qui redonne à la personne toute sa capacité d'influer, de respecter, d'être respectée par la médecine, me paraît importante. De la même façon, la loi dit que les directives anticipées, sans être obligatoires, lorsqu'elles existent, sont contraignantes pour la médecine. Et les médecins n'aiment pas beaucoup ça. Ils n'aiment pas que leur liberté soit contrainte par une directive anticipée. Et là encore, j'ai été un acteur dans la mesure où j'ai présidé du mois de mai 2015 à octobre 2015, le groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur les directives anticipées, destinées aux médecins et destinées aux malades, destinées non seulement aux malades, mais à toute personne, vous, moi. Comment écrire un document impossible qui encadre la fin de vie dont on ne sait pas très très bien comment elle va se passer, un accident de voiture, un infarctus, un cancer, le grand âge, et qu'on n'a pas tellement envie de dire à la médecine, écoutez, moi, s'il se passe telle chose, je n'ai pas envie de telle chose, parce qu'on se dit, la médecine, elle fera ce qu'elle pense être le mieux. Et pourtant, le document qui vous sera soumis, que vous recevrez si la loi est votée, parce qu'il est prêt, mais on ne peut pas le sortir tant que la loi n'est pas votée, en février ou mars. Je pense que ce travail que nous avons fait est un travail très différent des autres pays qui ont des directives anticipées. C'est-à-dire que ce n'est pas des croix que l'on coche, mais c'est un encouragement très libre à penser qu'on est 20 ans et qu'on fait du parapente, qu'on est 50 ans et qu'on est atteint d'une maladie nerveuse neurodégénérative ou qu'on a un problème respiratoire et qu'on se dit que les choses vont se dégrader et qu'on n'a pas tellement envie de se retrouver dans une situation d'inconscience. Parce que le problème, tant qu'on est conscient, la parole du malade l'emporte sur tous les documents. On ne va pas sortir les directives anticipées pour les opposer à quelqu'un qui parle. Mais quand quelqu'un est dans le coma parce qu'il a fait un accident vasculaire cérébral, qui se retrouve comme Vincent Lambert actuellement, qui se retrouve dans un coma dont les chances de sortie sont quasiment nulles. Je dis mais quasiment parce que nul absolument fait partie, l'exception existe. Eh bien que cette possibilité que les directives anticipées laissent à l'équipe médicale un certain nombre de recommandations, je crois que comme les autres pays, il n'y a pas de raison que la France soit différente des autres pays, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Italiens, des Américains, des Suédois, et on est à moins de 2%, on devrait arriver à peut-être 10, 15, 20%. Et quand j'ai présenté il y a quelques jours à l'HAS, ils m'ont dit, et ça m'a fait plaisir, ils m'ont dit, ce document, on a envie de le remplir. Donc je me suis dit que là, peut-être, les citoyens, on l'a montré déjà à plusieurs milliers de citoyens, et ça a excité leur curiosité. Parce que ce n'est pas un document où on vous dit « je ne veux pas être comme Vincent Lambert ». Il y a une espèce de liberté d'expérience, mais ce serait trop long de rentrer dans les détails. Pour terminer, le débat sur, à mon avis, qui est un débat, c'est un faux débat, c'est un débat, moi, qui me... de temps en temps, comme j'ai un caractère passionnel, me met dans un état d'exaspération, c'est le débat entre euthanasie et sédation profonde et continue. Pourquoi il m'exaspère ? Parce que l'euthanasie, telle qu'elle existe actuellement dans le monde, dans seulement 3 pays au monde, Belgique, Luxembourg et Hollande, j'ai vu d'ailleurs que la Hollande allait maintenant aller avec des pilules qu'on pourrait se procurer chez le pharmacien après 70 ans, sur ordonnance du pharmacien, l'euthanasie est un acte radical, est un acte préparé, est un acte anticipé 2 mois avant, tel que j'ai pu le voir, moi personnellement, au Benelux, à l'hôpital Bordès, et je trouve que c'est un acte qui, sous l'allure d'une merveille, le champagne, la famille, est d'une extrême violence. Et sous l'allure d'une liberté ultime, je pense que dans une société, l'altérité, c'est-à-dire comment soi-même on n'est rien et qu'on n'existe que par le rapport à l'autre et que sa propre existence est une existence dérisoire. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit relié aux autres, à ceux qui vous aiment, à ceux que l'on aime, et que l'euthanasie, telle que je l'ai vue, est un acte, à mon avis, d'extrême égoïsme au nom de la dignité. En revanche, la sédation dite profonde et continue jusqu'à la mort n'a rien à voir avec l'euthanasie. Elle n'a rien à voir parce que c'est un acte qui s'inscrit dans la continuité du soin. C'est un acte qui est demandé par la personne, effectivement comme une euthanasie, mais dont on ne sait absolument pas en combien de temps la mort va survenir. Ça peut être, si on a une insuffisance respiratoire, effectivement, peut-être en 30 ou 40 minutes. Mais ça pourra être 2 jours, ça pourra être 3 jours. Alors on se dira, c'est vraiment l'impatience, ça dure, c'est infernal. Mais moi je crois que c'est une mort apaisée. C'est en tout cas celle que je souhaite pour moi-même. C'est-à-dire que si je suis à un moment de ma vie atteint d'un cancer terminal ou d'une maladie respiratoire ou neurologique, peut-être que j'aurai envie d'affronter ma propre mort en toute lucidité, mais peut-être que j'aurai envie de glisser dans le sommeil, un sommeil apaisé et un sommeil où ceux qui sont là se sentent, au fond, présents dans cette relative douceur. Et ce qui m'agace, c'est que les partisans de l'euthanasie sont hostiles à cette sédation profonde et continue parce qu'ils veulent l'acte radical de liberté, et que ceux qui sont contre toute forme d'aide à la mort protestent en disant « c'est pareil que l'euthanasie ». Et donc je trouve qu'il y a une sorte de mal-pensée, d'une sorte de, au fond, de tragique amalgame, et que peut-être la loi telle que je la vois en 2016 sera une loi qui devrait apaiser les débats contradictoires. Et je pense que c'est une loi qui aurait vocation à éclairer beaucoup de pays, qu'on voit très très bien que les pays comme certains États américains ou certains cantons de Suisse, eux, ne veulent pas de l'euthanasie, mais ils veulent l'assistance au suicide qui n'a rien à voir. Il n'y a pas d'assistance au suicide en Belgique, Hollande, où elle est dérisoire, et il n'y a pas d'euthanasie en Suisse. Le ministre de la Justice suisse me disait que jamais en Suisse il y aura d'euthanasie. Donc il y a une idée médiatique que quand, au fond, les gens riches en ont assez, ils peuvent aller en Suisse se faire assister au suicide dans des conditions qui me paraissent là aussi tragiquement fausses par rapport à... C'est-à-dire, il y a des gens que j'ai pu rencontrer, le prosélytisme sous l'allure de la générosité m'a toujours paru, au fond, la tragédie humaine. Quand on parle de générosité humaine et que derrière, il y a des intérêts commerciaux et des intérêts ambigus, je suis toujours assez perplexe. Donc voilà quelques idées sur, au fond, la relation telle que je la vois extérieurement de la fin de vie en France. Je pense que les débats n'auront pas été inutiles, mais je pense que la violence, quelquefois, de certains comportements est totalement contradictoire avec l'ignorance de notre conscience à ce moment ultime. Merci.
Bon, je propose maintenant une libre discussion avec les questions, les réactions, les contrepoints.
Je voulais vous poser trois questions.
On peut peut-être commencer par une.
Oui, alors non, ça va être rapide. J'étais au repas et quelqu'un me disait que tout ce qui se passe dans l'Afrique, et enfin les Africains, et ils deviennent des chairs à canon. Et vous savez très bien qu'il y en a qui sont en fin de vie, ils sont mutilés, comme on peut le trouver à l'hôpital Saint-Antoine ou dans les hôpitaux militaires. Et c'est des gens, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Parce que quand ils sont amputés à vie, mais c'est une horreur. Et puis en plus, dans une question, un jour quand M. Blasi était ministre de la Santé, il est venu donc ministre de la Culture, et il nous parlait un jour aussi de Gabriel D'Annunzio, qui avait fait un livre, vous savez, sur l'éloge de la mort. J'aurais été bien curieux de croire ça peut parler exactement, ce système-là de l'éloge. Et souvent, même dans les hôpitaux, il y a des gens qui vivent avec un petit tuyau pour finir leur vie, et puis des fois la famille dit « enlevez le tuyau ». Exactement.
La seule chose que je puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de relation entre l'amputation et la fin de vie. Et que le paradoxe très impressionnant, c'est que les personnes quadriplégiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de jambes ni de bras, ou paralysées des jambes et des bras, au bout de quelques semaines d'accompagnement, sont aussi heureuses de vivre que vous et moi. Donc l'idée qu'un Africain amputé est devenu un déchet me paraît ahurissant. Il a aussi envie de vivre que n'importe qui. Et le danger d'une société, française en particulier, c'est de considérer que il y a des êtres tellement indignes de vivre par leur forme mentale, physique, que la bienfaisance serait peut-être au fond de les expédier. Et quand j'ai rencontré les infirmes moteurs cérébraux à Nanterre, vous savez, des gens qui ont une peine à parler, qui bavent, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur dire? Et ils avaient voulu m'écouter, m'entendre. Et ils m'ont dit à la fin, par leur interprète, il y a une différence majeure entre vous et nous. C'est que nous, on ne se pose pas de questions sur votre bonheur dans l'existence. Alors que vous, pas vous, mais vous en tant que société, vous nous regardez comme des gens malheureux. Nous sommes heureux de vivre. Donc l'idée qu'il y a des malades qui sont dans un tel état qu'ils ont perdu toute espérance vitale me paraît totalement étranger au débat. Et que justement, il ne faut jamais s'approprier le malheur de l'autre comme une souffrance telle qu'elle pourrait être résolue dans la mort.
Juste peut-être partager un peu les questions.
Vincent Lambert est malheureusement un mauvais exemple parce que c'était une question relativement simple qui était résolue par la famille, par les médecins, qui avaient remarquablement agi en essayant d'attendre 2 ou 3 ans. Elle l'avait envoyé en Belgique pour faire des examens qui n'étaient pas possibles en France. Et donc, tout était parfaitement cohérent pour qu'à un moment donné, à la demande de la femme qui connaissait mieux que n'importe qui le souhait de son mari avec lequel elle avait parlé, on l'arrête. Et que la suspension de l'hydratation, la nutrition avec une sédation se passe sans problème. Mais l'équipe médicale que j'ai rencontrée a été, au dernier moment, au moment de décider, se disent, mais au fond, peut-être dans la famille, on n'a jamais vu les parents. Ce serait peut-être quand même correct qu'on les prévienne, ils habitent dans le sud de la France, ils viennent jamais. Et c'est là où, brutalement, tout va partir en vrille, comme on dit vulgairement. Les parents arrivent, sollicités, pris dans un caractère un peu sectaire, se mettent à vociférer, à dire que c'est scandaleux. Et donc, un désordre familial va faire d'une histoire très simple une affaire complètement artificielle. La seule chose, c'est que peut-être que cette histoire malheureuse aura eu un effet, c'est que ça encouragera peut-être un certain nombre de personnes à rédiger des directives anticipées, je pense qu'elles devraient être d'ailleurs sur la carte vitale, et en fonction des documents qui seront à disposition, dire, dans ces cas-là, je souhaite que, si ma conscience est définitivement abolie, je souhaite que mon corps ne soit pas exposé comme ça pendant des années, et que je pense que c'est dans l'inconscient collectif une sorte de recommandations. J'ai le sentiment que il y a un espace considérable entre une famille qui considère que venir tous les jours avec une vie qui continue sur le plan de la rougeur, des réflexes automatiques, d'un pouls, de la respiration, réconforte et permet de mettre à distance le drame du deuil, et en même temps, je trouve qu'il y a quelquefois, mais c'est pas toujours le cas, la souffrance d'une famille crée une appropriation au détriment du vœu de la personne qui est dans cette situation. Autrement dit, je pense que le problème de Vincent Lambert ne pose pas un problème ni médical ni juridique, mais que confronté à cette brouille familiale, eh bien, l'ensemble de la société se retrouvent comme au théâtre d'Antigone. Alors il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais en fait, malheureusement, la situation est une situation caricaturale et qui, au fond, c'est pas Vincent Lambert, c'est la discorde familiale avec une aliénation des parents qui aboutit à ce que ça devienne une affaire médiatique. Mais c'est pas une affaire ni médicale ni juridique. Parce que à partir du moment où les médias s'emparent d'une décision de justice, l'émotion devient la plus importante. Et que, au fond, une décision de justice, elle doit être rendue très simple, elle doit être rendue exécutoire. Est-ce que, dans ce cas-là, la décision de justice, elle aurait besoin de la police et que, au fond, l'exécution de justice apparaît démesurée par rapport à l'émotion dans les journaux. Et donc, on est dans une situation absurde. C'est-à-dire que ce n'est plus une situation ni juridique ni médicale, c'est une situation médiatique. Et alors, la société a pris parti pour les uns pour les autres. Les églises ont pris parti pour les uns ou pour les autres, de façon, à mon avis, complètement absurde. Et j'ai vu des médecins prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc on est dans une situation qui n'a plus de capacité de gestion. La justice dit, voilà, j'ai pensé que le caractère exécutoire, dans une situation aussi émotive, nous paraît, elle aussi, démesurée. Alors, elle laisse à la société l'embarras. Mais je trouve que c'est navrant. C'est navrant pour toute notre société d'avoir été instrumentalisée par des groupes de pression aussi importants dans le sens chrétien, catholique, intégriste que dans le sens ADMD. C'est-à-dire, au fond, l'instrumentalisation aboutit à une... vous savez, comme toujours, quand il y a un débat de société, il a perdu toute capacité de discernement. Et qu'on voit mal la police arriver. Et voilà. Oui. Et donc les médecins, ils ne savent plus quoi faire. Et la Cour européenne, tout le monde a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Mais quand vous avez des groupes de pression d'inspiration religieuse ou laïque, c'est pareil d'ailleurs, aussi forts l'un que l'autre, bah, notre société est extraordinairement vulnérable.
Pour preuve, la mère, ainsi que l'épouse, l'ex-épouse, enfin l'épouse, ont chacune écrit un ouvrage. C'est-à-dire que... est-ce que c'était un moyen de se faire...
Non, mais c'est des ouvrages qui sont... Oui, mais vous savez que les journalistes sont très forts. Ils écrivent le livre, ils le font signer... Et ça fait vendre, et donc on est dans la commercialisation du témoignage. Je pense que dans 3 mois, il y aura 45 livres de ces malheureuses personnes au Bataclan, donc qui seront écrits par. Il y a une mise en récit, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'est une société.
Vous demandez pourquoi vous parlez de violence et d'égoïsme dans le cas de quelqu'un qui, atteint d'une maladie incurable, décide de mettre fin à sa vie par l'intermédiaire d'un suicide assisté, en accord avec sa famille, en accord avec ses amis et avec un certain rituel qu'on a vu à droite à gauche dans les films. Je ne vois pas en quoi... Dans ce cas-là, ça peut être ressenti comme une violence ou un égoïsme en plus. Voilà.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, comme toujours, il faudrait des heures pour être plus dans la subtilité. Je partage votre sentiment. Et d'ailleurs, dans le rapport que j'ai remis au président de la République, je disais que ça me paraissait parfaitement admissible qu'une personne atteinte d'une maladie de Charcot, d'une insuffisance respiratoire... demande très simplement que que l'on mette fin à sa souffrance et par une assistance au suicide. Simplement, ce que je disais, c'est que l'organisation doit être transparente. Or, elle ne l'est pas. Et que j'ai rencontré beaucoup de médecins dans les cantons suisses que j'ai interrogés et qui me disaient, au fond, des personnes extraordinairement seules, devenues très dans une situation d'incapacité physique, quand il y a cette offrande de l'assistance au suicide, finissent par trouver que c'est très bien. Et qu'il n'y a aucun effort fait pour un peu leur redonner la présence de l'autre. Je me souviens d'une femme médecin me disant, je reçois un jour un coup de téléphone de mes malades qui avait 74 ans et qui me dit, oh docteur, voilà, je voulais vous téléphoner, je me suis inscrit pour dans 2 mois pour une assistance au suicide, mais je voulais quand même ne pas le faire sans vous prévenir. Parce que vous savez, je ne vois plus, je n'entends plus, j'ai mal partout, ma vie est un cauchemar. Donc le médecin a trouvé que c'était tout à fait admissible. Ah bon, dit le médecin, écoutez, mais je vous connais, mais vous n'avez pas de visite. Non, je n'ai pas de visite, vous savez, la vie n'a plus de sens pour moi. Bon, très bien. Bon, écoutez, samedi matin, je viendrai vous dire bonjour. Et elle arrive le samedi matin, et elle arrive avec une lampe très nouvelle, des lampes extrêmement efficaces, et dit, voilà, j'ai pensé à vous, parce que vous me disiez que vous aviez plus, oh docteur, mais je compte pour vous. Elle dit, écoutez, vous comptez, vous n'êtes pas une amie, mais vous comptez. Oui, vous comptez comme un être humain, vous m'avez interpellé, et voilà, et elle parle pendant un quart d'heure, 20 minutes, et à la fin elle dit, docteur, vous n'oublierez pas de me vacciner cette année. C'est-à-dire que l'autre était venu. Ce qui m'a paru quelquefois étrange, c'est comment l'offre crée l'indifférence. Et que ce soit la famille, que ce soit la médecine, que ce soit les autres, je comprends parfaitement qu'on ait envie de mettre fin à sa vie. Le problème, c'est que la société, au fond, considère que c'est très bien. Et que le « c'est très bien », il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire « c'est très bien ». Est-ce que j'ai tout fait ? Est-ce que vraiment, est-ce que c'est une plainte que la personne exprime vis-à-vis de l'indifférence de la société, je n'ai plus de capacité d'être soigné, ou bien... c'est-à-dire, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est le prosélytisme, c'est pas l'existence. C'est-à-dire, quand dans les tramways à Genève, vous voyez, inscrivez-vous à Exit, 80 euros, et comme ça vous serez protégé quand vous voudrez mettre fin à votre vie, vous serez dans une collectivité qui vous inscrira. Quand j'ai rencontré les gens qui font ça, moi j'étais atterré par leur absence de réflexion. Je suis d'accord avec vous, 100 fois d'accord avec vous, pour penser qu'il y a un certain nombre de situations où le vœu d'une personne pourrait être respecté avec une assistance au suicide. Le problème, c'est comment une société peut arriver à respecter ce vœu sans en faire une offre qui décime les autres qui se finissent par se conformer au sentiment mon vieillissement, mon Alzheimer, si je suis conscient encore, va empoisonner mes enfants, mes petits-enfants. Et qu'il y a quelque chose là d'une ambiguïté contemporaine qui me paraît impensé. Mais croyez bien que non seulement je souscris à votre question, mais que peut-être le seul pays qui a réussi à faire quelque chose de bien, c'est l'Oregon, aux États-Unis. L'Oregon, quand une personne est atteinte d'une maladie à court terme, mais sans immédiat, et qui dit que elle ne supporte plus son existence. Il y a des médecins qui sont chargés d'évaluer cette relation, cette demande à son état. Et si le médecin considère qu'effectivement, c'est légitime, à ce moment-là, il fait une ordonnance. Et la personne ou son entourage peut aller la chercher dans une pharmacie d'État. Et le médicament lui est adressé par la poste, sans qu'il y ait de contrainte de prendre le médicament. Et la personne, dans sa solitude, mais avec un entourage qui sait qu'elle a ce médicament, fait qu'elle peut, et dans 60% des cas, elle ne le prend jamais, et elle meurt, mais elle est rassurée par le fait qu'elle peut le faire. Et donc, je pense que c'est une des voies, mais qui n'est pas très générale, parce que ça fait quoi, 80-90 personnes par an, sur les 9 milliards d'individus. Vous voyez comment une question aussi importante est traitée de façon aussi nano. Et donc, comment arriver à ce que cette liberté existe et qu'en même temps, ce ne soit pas une offrande d'indifférence? Et je n'ai pas la réponse.
Il y a des civilisations où les gens, au Japon par exemple, je ne sais plus si ça se pratique encore maintenant, mais en même temps, les personnes âgées, quand elles en avaient assez, elles partaient dans la montagne.
Oui, ça c'est les films et la balade de Narayama. Mais... Oui, mais les Japonais ont une attention aux personnes âgées largement supérieure à ce qu'est notre attitude des personnes âgées. En France, nous ne sommes pas le pays le plus généreux du monde. Ce qui est scandaleux, par exemple, c'est la mort en EHPAD, la mort aux urgences. C'est-à-dire, le Français, et ce serait trop long, je pense, est habitué à une médecine disponible, tous azimuts, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours opérer, toujours faire une nième chimiothérapie. Et l'idée que la mort peut survenir sans qu'on fasse rien est étrangère à notre culture. Et quand une personne âgée en EHPAD, plus ou moins consciente, parce que la majorité est atteinte d'Alzheimer, le soir s'étrangle avec un aliment, ou même en crachant et s'étouffe, dans 90% des cas, comme il n'y a pas de directive anticipée, il n'y a pas de médecin dans les EHPAD, l'infirmière, rarement, l'aide-soignante, qui n'a pas tellement envie que la famille se plaigne qu'on n'a rien fait, appelle à 1h du matin le SAMU. Le SAMU emmène cette personne et environ 15 000 personnes chaque année, 15 000 sur les 480 ou 500 000 morts chaque année, vont mourir sur un brancard aux urgences. Ça me paraît le comble de l'indignité, l'abandon. Quand même, nous avons été le seul pays européen en 2003 pour la canicule à abandonner les personnes âgées. Donc, méfions-nous d'une société qui trouverait des moyens élégants de se débarrasser des personnes âgées. Et je pense que notre société est une société qui est en même temps généreuse, le Français est généreux, et en même temps, il n'a pas une capacité extraordinaire de générosité, on le voit dans les jours récents vis-à-vis des migrants. Nous sommes le pays d'Europe le plus intolérant aux migrants qui existe, largement devant tous les autres. Donc moi je suis frappé de voir que tous les pays scandinaves ont pris des mesures pour que les personnes âgées ne soient pas dans des établissements de 1 000, 2 000 personnes. Ils sont au centre de la cité, 8-10 personnes près des écoles. Nous, on les parque dans des hôpitaux, dans la banlieue, sans métro, sans autobus, sans car, dans une indifférence qui choque les Africains, qui choque les Asiatiques. Nous nous débarrassons. Alors, quand les Algériens que je rencontrais me disaient: vous savez, on a 80 ans, on est venu en France dans les années 50, Chez Renault, on n'était pas déclaré, on a des petites retraites, 500 euros. Mais enfin, nous, on reste en France parce qu'on n'a plus personne en Algérie. Puis l'Algérie, vous savez, c'est pas merveilleux. Et puis que la France est merveilleuse parce qu'elle nous soigne gratuitement et que c'est vrai qu'on aura tous les soins possibles et imaginables. Il me disait, mais si par hasard il y avait une loi un jour sur l'euthanasie au sens belge, hollandais et luxembourgeois, alors là, on serait terrorisés. Parce qu'on sait très bien que notre présence en France est tolérée, mais elle n'est pas souhaitée. Et que nous, on serait la variable d'ajustement pour penser que, bien sûr, on nous dira qu'il faut demander, mais on considérera que le mot euthanasie dans une loi ou de mettre fin à la vie dans une loi, alors là, nous avons confiance dans ce pays, nous aurions peur de rester dans ce pays. Donc au fond, le sentiment d'appartenir à des cultures différentes doit être entendu. Et que je crois qu'il y a une espèce de vision toujours intellectuelle des professeurs de sciences naturelles. J'ai rien contre les professeurs de sciences naturelles, mais des gens hyper rationalistes qui défendent une sorte de droit, de liberté personnelle. Moi, c'est ça qui m'a paru. Quand je parlais d'égoïsme, c'était, au fond, l'indifférence à la société dans laquelle on vit. Et moi, 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 comme dans la chanson de... Je ne sais plus qui, de Dutronc. Le moi, 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 je trouve, est extraordinairement pervers.
D'abord Frédéric, puis ensuite...
Par rapport justement à l'évolution en France, autrefois, dans les campagnes, les aïeux, les grands-parents vivaient avec les enfants, les petits-enfants. Comment, à quel moment avez-vous vu cette évolution? Alors, du fait qu'il y a eu effectivement le passage en ville de ces populations paysannes, mais comment se fait-il? Est-ce que, par exemple, on parlait de l'Europe, on parlait des pays du Nord, mais est-ce que dans les pays méditerranéens, Espagne, Italie, le comportement vis-à-vis de nos aînés est identique?
Pour répondre à votre intéressante question, je me pose la question, au fond, de la rançon de la médecine. Quand une personne, un aïeux, dans un petit village, avait une pneumonie, il mourait. Et c'était très simple. Quand il tombait de sa brouette, il mourait parce que la fracture de hanche était la mort. Et donc, la médecine était totalement... simplement une médecine d'observation. Et à partir du moment où les antibiotiques, les médicaments de l'hypertension, les prothèses de hanche sont arrivés, les vieux ne meurent plus. Et les vieux qui ne meurent plus, ça embarrasse tout le monde. Parce que la vie, les contraintes de la vie quotidienne, même dans les fermes, fait que avoir deux ou trois ou quatre générations dans une ferme, ça crée une tension. Et que les personnes très âgées étaient très rares. Et si elles étaient très rares, elles étaient étonnamment vivaces. Mais si elles commençaient à être un peu perclues, la fin arrivait très vite. Ce qui est quand même très étrange, c'est que la médecine peut faire vivre, pas indéfiniment, mais peut faire prolonger la vie de façon étrangement longue. Comme ça, et sans que, au fond, la société elle-même ait pensé les conséquences de cette prolongation. C'est l'hypothèse. Mais, avec une autre conséquence, d'ailleurs, c'est que, en fait, la période 1950-1980 est une période absolument étrange dans l'histoire de l'humanité. Parce que pour la première fois, des maladies qui étaient mortelles à 100% guérissent, que les antibiotiques guérissent, que les antihypertenseurs empêchent les accidents vasculaires cérébraux, que l'hémiplégie devient beaucoup plus rare qu'elle ne l'était dans les années 60, et que les gens se portent beaucoup mieux. Il y avait une sorte de fatalité. Or, ces progrès se sont interrompus depuis 80-90. Il n'y a plus de progrès thérapeutique. Alors, il y a des cellules souches, il y a des médicaments, des anticorps, des trucs de l'immunité, des nanomédicaments qui font la une des journaux et la prouesse des grands laboratoires. Mais on est dans un immobilisme de la médecine qui fait que les grandes avancées médicales, elles sont derrière nous et on croit qu'elles sont devant nous. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura des... On est devant une médecine qui va progresser sur le bien-être, alors sur la sexualité, sur la fatigue, sur le sommeil. On va protéger probablement des gens des addictions. On pourra boire un peu d'alcool sans être sous, on pourra prendre un peu de haschich sans en prendre trop. Là, la médecine, elle est passionnante parce qu'elle a trouvé un marché florissant. Mais disons, les grandes avancées thérapeutiques sont derrière nous, et moi, je ne vois pas, à l'échelle de notre vie, en tout cas de la mienne, peut-être pas seule des jeunes, des grandes avancées collectives. Il y aura pour une maladie extrêmement rare, une avancée surprenante, mais qui va toucher 300 personnes, 500 personnes. Et pour répondre à votre question, je crois que au fond, l'effet surprenant d'une humanité qui gagne un an quasiment chaque année de vie, je pense qu'on est en fin de cycle. On a épuisé nos capacités d'augmenter. Et donc, on avait l'espérance que, voilà, 105, 110, 115, 120, mais tout ça est pour les films science-fiction.
Enfin, une des questions corollaires serait à quand une médecine capable en gros de tout réparer, tout reconstruire très rapidement et que tout le monde serait sauvé. Donc déjà, la question du débat de ce soir ne se poserait plus.
Je crois que c'est une question intéressante mais dénuée de sens. Elle est intéressante, je ne la reproche pas, mais elle est dénuée de sens parce qu'elle suppose qu'un corps est indéfiniment réparable. Un corps est réparable, mais il n'est pas indéfiniment réparable, et qu'un corps c'est une unité, c'est un groupe, c'est un puzzle d'organes où chacun est un petit peu relié. Alors, on peut mettre des greffes de rein pour supprimer les insuffisances rénales, greffe de foie pour guérir un cancer du foie, greffe du cœur pour un... mais qui sera toujours marginal. Et que l'idée que la médecine propose, en particulier avec les cellules souches, sinon une immortalité, mais une réparation permanente, fait partie des utopies archaïque, parce que, ou alors ça suppose un pacte à la Méphistophélès, et ce pacte, il est redoutable, il est de transformer les embryons que nous faisons en source de réparation. Alors on pourrait imaginer que les femmes, puisque jusqu'ici je vois mal les hommes faire des embryons, que les femmes se prêtent à cet exercice, c'est-à-dire de faire des embryons qui seraient identifiés par la médecine comme proches de son aspect génétique et que l'on puisse garder au congélateur et que l'on puisse prélever à la demande comme une caisse d'épargne. Mais le prix à payer, ça voudrait dire une dégradation de notre rapport à l'humain, c'est-à-dire un espèce, alors là, d'égoïsme suprême, c'est-à-dire que on utilise la vie de l'autre pour soi. Et ce qui me paraît la plus grande tragédie de l'existence, c'est quand l'humain s'approprie au fond le vivant pour lui seul. C'est pour ça qu'à votre question, je pense que on pourrait arriver scientifiquement à avoir des réparations au prix d'une, d'une, du mépris absolu de ce qui nous fait humains. Mais votre question est très intéressante, mais c'est dénué de sens au sens où elle m'intéresse parce que je dois intervenir, je ne sais plus, dans 2 mois, en débat contradictoire avec un chercheur de l'Institut Pasteur sur les cellules souches, je ne sais plus, à Dauphine ou je ne sais pas quoi. Parce que la société attend de la réparation par les cellules souches. Et moi, ce qui me paraît terrible, c'est le prix à payer. C'est vraiment c'est même pas un enfant, parce que c'est un embryon dont on a qui sera du matériau, qu'on interrompra, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se développe trop, parce que ça ferait mauvais effet de prélever une forme humaine. On aura un petit tas de plastique comme ça. Arriver à extérioriser par fécondation in vitro un être qui va vous réparer, au nom de notre volonté de persévérance, mais je veux dire que l'humanité n'a plus qu'à se suicider, qu'elle a perdu tout sens de son existence, du mystère de son existence, et que si elle confisque les existences des autres pour survivre, pour moi c'est le degré ultime de la tragédie humaine. Alors, oui, alors, ce que faire, c'est que si elles sont forcément, parce que les cellules souches, alors on peut les prendre dans la peau, et on peut les remodifier, mais à ce moment-là, ça suppose que on peut faire des spermatozoïdes à partir des cellules de la peau. Alors effectivement, on peut faire des gamètes, mais l'idée que l'homme puisse indéfiniment se réparer en reprenant le processus du début de la vie pour écarter la fin de la vie, me paraît, au fond, un refus de la finitude extraordinairement régressif.
Je suis d'accord que la programmation pose problème, la programmation des programmations, mais le problème que vous évoquiez juste avant, c'était
alors, c'est le problème de l'autogreffe, parce que quand vous avez une autogreffe de moelle, vous prenez vos cellules souches de moelle et on les traite et on peut avoir une autogreffe de moelle. Dans ce domaine, il peut y avoir des progrès, mais l'idée que l'on puisse, c'est extrêmement compliqué d'y arriver quand même, ça suppose une confiscation pour soi des ressources collectives gigantesques à l'échelle de millions d'euros. Donc là, c'est un autre problème économique, c'est-à-dire que demander à la médecine, au fond, ce qui m'est étranger, c'est de demander à la médecine le salut de l'existence. Comme si on allait substituer la médecine au salut de la transcendance, même pas forcément Dieu, pas forcément une transcendance incarnée par une pensée, mais une humilité de savoir qu'on est au monde et que cette volonté de demander, quand on souffre, c'est merveilleux la médecine, quand on est malade, on est opéré, c'est merveilleux, mais de demander la prolongation de la vie, la prolongation de son être à la médecine, moi me paraît une contradiction ontologique majeure, dans la mesure où on lui demande autre chose, on lui demande le recul de la finitude, et ce recul indéfini de la finitude me paraît une barbarie. Mais peut-être que je suis excessif, mais ça me paraît être une vision sous une allure bénéfique terriblement tragique. Absolument, je partage votre sentiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'école, ils m'ont demandé, ils voulaient que j'organise un colloque. Je crois que je vais le faire, d'ailleurs, sur l'acharnement thérapeutique, parce que, vous avez raison, l'acharnement thérapeutique, en France, il n'est pas interrogé. Et que, moi, je suis frappé des millions d'euros dépenser pour ne pas faire de peine à la personne, ne pas affronter sa finitude. Quand je serai malade, peut-être que j'aurai envie qu'on me fasse une dernière traitement. J'ai le sentiment que je m'y refuserai, mais peut-être que je serai pris à mon dépourvu et que je dirai que je suis dans une... On ne peut jamais imaginer, au moment où on est en situation d'avoir à affronter sa fin de vie, comment on réagit. Peut-être que, comme le noyé, on demande l'impossible.
Jacques Abraham, justement, sur ce que vous venez de dire, c'est un petit peu contradictoire avec votre demande de demande anticipée de...
Directive.
De directive anticipée, excusez-moi, parce que justement, on a du mal, il y a des limites à l'empathie, on ne sait pas comment on va réagir. Et là, vous nous demandez...
Non, c'est très différent. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, quelques années, on pourra faire des grèves de cerveau. Mon cerveau est détruit. Je ne veux pas imposer à mon entourage un corps sans conscience définitif. Je crois que c'est pas forcément partagé, mais au moins pouvoir le dire. Si j'ai un accident vasculaire cérébral et que mon cerveau est détruit, je ne souhaite pas continuer à être un corps alimenté, parce que ça peut durer 10 ans, comme Sharon, comme Franco. Et je trouve qu'il y a quelque part quelque chose qui est demandé à la médecine, qui éventuellement répondra, parce que elle sort son artillerie, mais elle sort une artillerie dépourvue de sens.
Vous parlez de cette chose, embryonnaire ou pas, je ne comprends pas grand-chose. Ce que je voulais dire, c'est une réflexion spontanée. Si c'est mon enfant, moi je t'écoute tout de suite.
Si c'est mon enfant.
Si c'est mon enfant qui est malade et qu'on peut réparer avec une cellule, j'ai envie de pouvoir dire oui tout de suite.
Oui, mais c'est totalement différent. C'est que une mère donne son sang, donne son cœur, donne ses reins. C'est à partir de l'évidence humaine. Pour un enfant, on fait tout. C'est vous faites pour un enfant, vous ne faites pas pour vous-même. C'est radicalement différent. Oui, mais alors vous allez dire, oui, mais moi je vais vouloir vivre le plus longtemps parce que il faut que je vive pour mon enfant. Là, on n'en sort jamais, si vous voulez.
Non, je parle des recherches qui sont faites sur les cellules.
Ah non, mais
les recherches, pas moi personnellement.
Oui, mais alors que vos propres cellules souches guérissent votre enfant, ça c'est un peu plus compliqué. Je vois, on peut faire des greffes de moelle qui sont déjà, mais qu'on puisse transformer votre sang en cellules souches qui peuvent l'aider, sur des scénarios qui sont possibles virtuellement. Mais je n'ai pas vu la réalité pouvoir s'accomplir. Mais le vœu me paraît légitime. Oui, c'est pour ça que en France, ça a été une situation très particulière pendant très longtemps qui a changé. En France, une grossesse qui s'annonçait mal, l'acharnement thérapeutique était de mise. C'est-à-dire que l'enfant naissait. Il pesait 300 grammes, 400 grammes, mais il naissait à 6 mois. Il naissait. Et après, embarras, qu'est-ce qu'on fait? Et on disait euthanasie. Et les enfants étaient euthanasiés. Et puis, il y a eu les autres pays européens avaient une attitude radicalement différente. Ils considéraient qu'on ne prenait pas le risque, peut-être à tort, de faire naître un enfant dans ces conditions. Et donc, ils interrompaient. Et donc, parce qu'eux considéraient que mettre fin à la vie en dehors, ultérieurement, était vraiment très difficile. Et donc, ils faisaient tout pour, pour éviter l'acharnement thérapeutique. Et ils considéraient que l'exploit, ce n'est pas de faire naître un enfant de 400 grammes. Et que, au fond, l'exploit scientifique était au détriment de l'être qui allait vivre, qu'on allait, compte tenu de l'handicap très profond, qui, quelquefois, n'était pas assumé par la famille secondairement, allait aboutir à l'euthanasie. Mais la fin de vie de l'enfant nouveau-né à elle seule est d'une grande complexité et donc difficile de l'aborder de façon spécifique.
Est-ce que ces différentes situations font que des personnes dans le corps médical aimeraient un peu baisser la voilure sur les soins prodigués, en quelque sorte la relation au patient l'emporte sur la technicité, moins soignée par les thérapies?
La médecine n'en prend pas le chemin. On bat le chemin parce que moi, ma sévérité là-dessus, c'est que compte tenu de l'importance de la technologie en médecine, c'est-à-dire l'imagerie, la biologie, le coût abyssal des traitements qui s'oppose à la gratuité de l'écoute et de la main. Au fond, la mise en jeu de l'artillerie technologique, elle a un prix. Le prix, c'est la soumission au marché. Et quand le marché a pris dans ses raies une technologie, elle va proposer perpétuellement de l'améliorer, comme un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8. Et au fond, on est dans une occupation de la médecine par la technologie, et que, à leur insu, les médecins finissent par être dépendants des technologies. Et ils deviennent soumis. Et donc, ils ne peuvent même plus revenir en arrière. Les Américains sont en train de revenir en arrière, mais de façon très particulière. J'ai été à Boston l'année dernière, invité au Massachusetts General Hospital. Parce que les Américains ont une telle disponibilité technologique, c'est tellement dans la chambre du malade, il y a tout, le scanner, l'IRM, qu'elle est là, la technologie, elle est là, donc ils retournent au malade, parce que le malade, il est entouré d'appareils, alors qu'en France, il y a la technologie qui sont dans des laboratoires, dans des centres de radio, et puis le malade tout seul, dont on va voir, et qui est séparé. Et peut-être que dans... Mon optimisme, à la rigueur, ça pourrait être dans une ère post-technologique. C'est-à-dire que la technologie est devenue tellement banale, exactement comme on se promène avec nos iPhones, nos iPads, nos je sais pas quoi, que c'est tellement disponible, le médecin a tellement devant lui tout, qu'il est évident qu'il peut ne pas... Il revient au malade. Il est... Alors que nous sommes à une ère... étonnamment archaïque de notre technologie, parce que nous avons, un peu comme les robots des années 50 qui étaient des machines IBM qui occupaient des centaines de mètres cubes et que maintenant on a une puce, le jour où la technologie sera le prolongement de la main du médecin, qu'elle sera, que toute la technologie sera sur une petite fiche, sur un petit iPhone, alors à ce moment-là, le retour au malade se fera. Il se fera naturellement comme une évidence. Mais tant que la technologie sera séparée du corps du malade, je pense qu'on aura cette médecine inhumaine, fascinée par la technologie et soumise au marché qui finance cette technologie. Mon optimisme n'est pas considérable, vous voyez. Mais c'est un autre sujet.
Oui, parce qu'évidemment, dans cette équation, la question financière est insupportable.
Elle est d'autant plus insupportable que la France dit la santé n'a pas de prix, et par conséquent, la sécurité sociale, bon, elle a un trou depuis 20 ans, ce sera nos arrière-petits-enfants, on a accumulé depuis 20 ans 240 milliards de dettes simplement pour l'assurance maladie. On a 10 milliards d'années chaque année et on se lance dans des thérapies absolument démentes à des millions d'euros, des milliards d'euros qu'on n'a pas le sou, qu'on emprunte, je ne sais pas dans quel pays, mais parce que la médecine, elle est totalement désinsérée de l'économie. Non pas qu'il faille faire une médecine au petit pied en disant « Non, pas de traitement comme ça, ça coûte trop cher », mais qu'on ait le sentiment que c'est tellement précieux d'avoir une santé unique au monde dans sa générosité qu'au lieu de la protéger, on fait n'importe quoi. On a mal au ventre, on fait une échographie, on a mal au pied, on fait une radio du pied. Et puis même si on n'attend pas deux jours pour savoir si ça va durer, on veut tout de suite avoir la réponse. On a mal à la gorge, on prend des antibiotiques. Enfin, il y a une espèce de, puisque tout ça ne coûte rien, une débauche économique qui me paraît être une autre forme de notre incapacité de réfléchir collectivement à cet extraordinaire privilège en France, d'être soigné sans dépenser d'argent.
D'où Vincent Lambert peut se poser la question.
Absolument, mais Vincent Lambert est sorti du paysage rationnel. Donc, il ne faut pas en faire un débat philosophique. C'est devenu un débat médiatique. Et les débats médiatiques, malheureusement, ils sont pauvres.
Voilà, il nous reste 5 minutes, si vous souhaitez encore réagir.
Le titre de ces soirées, c'est le débat théologique. Je cherche la Bible dans tout ce qu'on a entendu.
Ah, ce n'était pas ma fonction. On ne m'a pas demandé de parler de la fin de vie de Jacob ou du Christ. C'était pas, moi, je ne suis pas théologien. Je lis la Bible, mais je n'étais pas... Mais si on m'avait demandé de réfléchir en termes théologiques, j'aurais été malheureux, mais j'aurais tenté de le faire. Mais ce n'était pas la commande.
Si je vous pose cette question, c'est parce que moi, je me la pose.
Ouais, il y a Jean-Pierre qui réagit là-dessus, justement.
Non, je ne vais pas répondre. Je vais vous poser une question. Est-ce que, dans la multiplicité des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé, je ne vous prendrai pas à vous, mais est-ce que vous avez perçu dans les entourages familiaux ou dans les entourages professionnels des différences de sensibilité selon que l'on est croyant ou pas? Est-ce que cette approche de la mort, est-ce que vous avez perçu, ne serait-ce que parce que les uns peut-être croient à la résurrection, croient à quelque chose après la vie, d'autres non, est-ce que vous avez eu l'occasion de percevoir, ou bien c'est imperceptible?
Je ne crois pas. J'ai toujours été frappé du fait que les prêtres, les pasteurs, les imams, je ne sais pas, les rabbins, ont la même, les médecins, ont la même incapacité à dominer l'inquiétude existentielle à ce moment-là. Ce qui me surprend, c'est un aspect assez étrange de récupération sur... j'écoutais il y a 10 jours sur France Culture des discours très ambigus sur les morts, je ne sais plus comment ça s'appelle, les morts qui se croient, au moment de mourir, flotter leur âme qui est sur l'armoire, qui regarde, etc. Alors là, je trouve qu'on est dans la naïveté qui me paraît plus de la foire du trône, et avec des médecins qui confirment que certains moments de mourir, l'âme quitte le corps et on se voit mourir sur le lit, etc. Et avec des gens, avec des documents qui racontent toujours, alors ça peut être la Vierge, ça peut être le grand espace de Lumière, c'est bleu, c'est rouge, c'est jaune. C'est-à-dire, il y a une fragilité et une espèce de ferveur de cette question, comme si la religion allait leur apporter une réponse concrète, matérialiste. Je suis accueilli par Dieu au moment de mourir. Et dans cette vision, là, ça me paraît être, au fond, les cellules souches de l'âme. Comme s'il y avait une... On se rattachait aux branches d'une vision angélique. Mais je crois que tout être humain le fond de ma pensée, c'est que mon métier ne m'a rien appris sur la mort, simplement, peut-être qu'il m'a rassuré sur le fait que la mort n'est pas aussi angoissante qu'on le croit, et que la mort est un moment peut-être souvent extrêmement simple, et que c'est l'angoisse de ne plus exister qui est peut-être insupportable à un esprit, mais que le passage physique de la vie à la mort m'a toujours paru, j'ai vu quelquefois des situations, mais c'est assez rare, j'ai toujours le sentiment que si on réveillait les 100 milliards d'individus qui sont morts depuis le début des âges, je pense que l'immense majorité dirait que c'est très simple.
Merci beaucoup. Merci encore.